Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 3 mars 2020 et vous écoutez le Café de l'e-commerce. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Salut Laetitia, ravie de te retrouver et d'enregistrer cet épisode avec toi. On n'a pas enregistré la semaine dernière, mais on est de retour. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast de France sur l'e-commerce, le social commerce, RSE, etc. pour les professionnels et les non-professionnels, tous ceux qui s'intéressent tout simplement au digital et au commerce.
Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles.
Laetitia.
Adrien.
Prêt.
Synchronisation des montres. Et on commence tout de suite avec notre rubrique habituelle. Quoi de neuf chez nous ? Alors, on va vous parler d'un sujet, je pense que vous n'en avez jamais entendu parler pour le moment, le coronavirus.
La raison pour laquelle on voulait discuter, c'était de regarder un petit peu dans l'impact que ça peut avoir sur le business. Et c'est amusant parce que j'avais pris quelques notes la semaine dernière et entre temps il y a des choses qui ont évolué. Donc ce que moi je vois à mon niveau, c'est déjà l'impact il est à deux niveaux. La société pour laquelle je travaille, je travaille pas mal sur l'Italie et on voit qu'en Italie il y a beaucoup de ralentissements. Donc tous les budgets pour les sociétés pour lesquelles on travaille, où on avait des projets en cours, ils ont été gelés jusqu'à une date indéfinie. Et on se rend compte que c'est même au-delà de juste les projets e-commerce, les sociétés, les marques, elles sont un petit peu en train de se protéger et elles se disent on ne sait pas trop s'il va y avoir une crise ou l'impact réel que ça va avoir. Donc il n'y a plus de nouveaux projets, on attend et les projets en cours, on va essayer de diminuer la voilure. En plus de ça, les employés, on leur demande, mais ça on l'a vu à la télévision, on leur demande de rester à la maison, de travailler, de faire beaucoup de télétravail. Donc il y a pas mal de ralentissements. Pour les sociétés françaises, j'ai travaillé avec des amis qui sont dans des grands groupes de luxe du CAC 40 et qui m'expliquaient que donc qui confirmait cette tendance de mettre en pause les projets qui sont non stratégiques et également de limiter les déplacements, de faire revenir tous les expats qui étaient en Italie notamment, mais maintenant bon, ça s'est tellement propagé que je sais pas trop quelle est la règle, mais vraiment de prendre cette menace très au sérieux. En discutant également avec une amie qui est aux Galeries Lafayette, qui gère un magasin, c'est amusant parce qu'elle m'a dit on a eu une consigne de ne pas parler aux journalistes. Donc là, c'est une information un peu croustillante en off. Et l'impact, c'est un peu bizarre parce que certaines boutiques, elles ont fait plus 30% par rapport à l'année dernière. Donc ils réussissent toujours à vendre. Et je pense que c'est en fonction de quel produit tu vends, quel est ton secteur. Et d'autres boutiques, elles sont en train de se casser la figure. Donc sur les Champs-Élysées, on voit qu'il y a moins de touristes, moins d'asiatiques qui vont dans ces boutiques-là. Je pense que le luxe, mais comme dans toutes les crises, certaines sections du luxe, ils vont continuer, l'impact sera limité et d'autres vont se casser la figure.
Alors Adrien, tu parlais des Galeries Lafayette, donc il y a une certaine diminution, c'est surtout par rapport aux populations asiatiques qui ne viennent plus.
Là c'était en général parce qu'il y a aussi des Russes, il y a de tout le monde qui parle et là elle ne faisait pas de distinction, elle me disait que ça, les gens continuaient à venir et continuaient à consommer, mais tu vois, t'as la boutique où elle vend qui vend bien et à côté ça se casse la figure et puis ils se parlent entre eux, c'est des concurrents mais ils se parlent. Donc pourquoi je voulais partager ça, c'est tout simplement pour voir que l'impact il est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer au départ. Ça va avoir un impact, c'est pas juste sur ce qui est produit en Chine qui arrive ici, on le voyait sur l'e-commerce, on sait que ça gère tout est produit en Chine, mais en réalité avec les effets de bord ça va avoir un impact sur toutes les industries pour lesquelles on travaille. Donc on va voir aussi de manière sur l'e-commerce, on va suivre tout ça.
Oui, et d'ailleurs on en avait discuté au tout début de l'épidémie qui à l'époque était juste confinée à la Chine et on avait relevé l'impact sur le e-commerce, notamment sur les achats de masques, toutes ces choses-là. Et à ce moment-là, on se doutait pas que ça allait avoir un impact sur l'industrie de la mode. Adrien vient de le dire, mais on n'arrive pas encore à avoir des chiffres très précis, mais à mon avis ça doit être assez conséquent. Et puis nous sur l'impact business, moi la semaine dernière j'ai eu les premières annulations chez un grand retailer qui a décidé, comme le disait Adrien, de ne plus recevoir plus personne en ces lieux. En fait, il s'agissait de quelqu'un qui revenait d'Italie. Cette personne-là a été mise en quarantaine. Et en réalité, tous les jours, on apprend des choses comme ça, des rendez-vous qui s'annulent, des gens qu'on ne peut plus voir. Et puis, on a aussi les événements qui s'annulent. Donc moi, dans ma société, on avait un événement assez important qui devait avoir lieu là, en fin de semaine à Barcelone. Et pour des mesures de sécurité, on a décidé de l'annuler et on a plein d'autres annulations sur des salons, des choses comme ça qui s'enchaînent.
On en avait parlé la dernière fois, le One to One Monaco, c'est un des plus gros salons de l'année pour le e-commerce, un salon professionnel, très select sur 3 jours, enfin très select, ça l'est moins, très ouvert maintenant d'ailleurs, mais qui reste très cher quand on veut le sponsoriser. La société pour laquelle je travaille, c'est le plus gros investissement qu'on a fait cette année, c'est on va dire le seul événement qu'on fait, et on a reçu une communication la semaine dernière qui sont en train de regarder et de prendre les mesures, mais il est fort à parier que dans 2 semaines l'événement va être annulé. Tu faisais une réflexion assez intéressante, c'est que quand bien même il maintiendrait l'événement, tous les grands groupes, ils prendront aucun risque, ils viendront pas. Et donc, quel intérêt d'aller là-bas si tu as pas les grands groupes? Parce que l'intérêt, c'est tu es éditeur, tu sponsorises et tu as des one-to-one avec des grands groupes pour pouvoir leur vendre des projets ou faire la qualification.
Ben voilà, c'était notre petit focus coronavirus. On passe aux news et aux infos à retenir.
Je voulais prendre quelque chose de très léger, Laetitia, pour continuer. Je voulais te parler des SMS. C'est une infographie que j'ai pu retrouver, qui a été citée sur e-marketing. Donc les SMS, en fait, on les reçoit tous les jours en tant que consommateur. On le reçoit beaucoup, et les marques, c'est un outil qu'elles utilisent pas mal. Et donc l'étude, elle a porté sur plusieurs milliers de marques qui utilisaient les SMS, et je voulais partager avec toi les stats. Donc tu as 48%, un peu moins de 49% des SMS qui sont des SMS de notification. Et ce qu'on attend par là, c'est ta commande est prête, ou une promotion particulière, ou merci d'avoir acheté ce genre de choses. 3 SMS sur 4 contiennent moins de 160 caractères, et en fait tu vois que la très grande majorité sont entre 120 et 160 caractères, donc ce sont des SMS qui sont courts, très pas court. Trop courts, parce qu'il n'y en a que 15% qui sont, je crois 15-20% qui sont en dessous de ces 120 caractères, mais la grande majorité, c'est toujours à peu près le même nombre de caractères. 9 SMS sur 10 sont envoyés via un émetteur personnalisé. Donc, c'est pas un numéro de téléphone bizarre, mais tu as le nom de l'enseigne. Et c'est vrai que maintenant, c'est devenu tellement commun que tu penserais que c'est du spam si c'est pas personnalisé. 95%, ça m'a vraiment étonné cette stat. Plus de 95% des SMS envoyés atteignent leur cible finale et sont lus immédiatement. Alors, je sais pas comment on peut mesurer le fait qu'ils soient lus. En tout cas, même si c'est une estimation, parce qu'on peut, bon, ils ont fait leur étude, ça reste très très élevé. Et c'est vrai que je sais pas si tu l'as déjà fait dans la vie de tous les jours, mais quand je veux dire quelque chose à quelqu'un, je l'envoie sur WhatsApp, et quand c'est urgent ou je veux vraiment qu'il le lise, je l'envoie par SMS. Ça t'est jamais arrivé? Donc il y a peut-être ça, que les marques savent que le SMS c'est un moyen aussi d'atteindre directement, ou la notif SMS, elle apparaît différemment.
T'as le taux de désabonnement? Parce que moi, à chaque fois, j'envoie stop.
Et à ton avis, il est de combien?
Je sais pas, je dirais plus de 60%.
60% des abonnements,
ouais.
Il est de 0,13%.
Non, je suis seule folle à envoyer stop, arrêtez.
Et en fait, la raison, moi je pense qu'il y a une double raison.
Mais c'est bas.
Ouais, c'est très très bas. Il y a une double raison. La première, je pense que personne ne connaît le stop SMS, de se désinscrire, forwarder soit répondre, soit le forwarder le numéro dont j'ai oublié d'ailleurs quel est le numéro. Ça, c'est pour le spam en plus, tu vois. Même moi, je suis en train de confondre. C'est stop pour arrêter, et tu peux le forwarder un numéro pour envoyer ça en spam et qu'on reçoive plus ça. Mais bon, donc ça, je pense qu'il y a peu de personnes qui prennent le réflexe de le faire. Et la deuxième chose, c'est que le SMS a un coût pour les marques qui n'est pas négligeable, et donc en général, elles vont envoyer beaucoup de SMS, mais elles vont essayer de cibler. Et on pense que l'envoi des SMS, il est beaucoup plus personnalisé. D'accord. Donc il est plus pertinent que des emails.
Et
donc,
on arrive à connaître le taux de conversion justement sur un
non,
SMS.
Y avait, y avait non, il n'y avait pas cette stat.
Et j'ai une dernière question.
Oui, Laetitia.
Combien ça coûte en énergie? Non, mais parce qu'on sait très bien qu'un email, ça génère beaucoup de CO2, ça provoque du stockage, des choses comme ça. Je me demande sur un SMS, c'est vraiment une vraie question. Hein,
Parce que c'est la fin du monde que tu poses ces questions.
Exactement. Mais du coup, je ne suis pas responsable puisque j'envoie toujours stop.
Laetitia, tu voulais nous parler de Bash.
Voilà, Bash, je ne sais pas si tu connais cette marque, grand retailer français. Bash propose désormais la location de vêtements. Louer des vêtements de marque plutôt que les acheter, voilà, c'est le pari fou c'est pas fou d'ailleurs, mais c'est le pari de Bash avec une société qui s'appelle Les Cachotières. Donc aux USA, ça existe déjà depuis un petit moment, depuis 2009, avec la société Rent the Runway. En gros, louer ce que vous ne mettez pas, en fait, enfin ce que les autres ne mettent pas plutôt. Et puis il y a Urban Outfitters qui a lancé ça également. J'en avais parlé au tout début, en septembre, au tout début de l'année. Voilà. Et en Europe, on a aussi H&M qui lance ça en test, là, pour le début de l'année, mais uniquement en Suède. Et en France, eh bien, on a Bash qui affirme être la première marque à s'y atteler en partenariat donc avec les cachetières. Alors pourquoi est-ce que Bash se met sur ce segment-là ? Bah, déjà pour des questions environnementales. Je rappelle ici que la mode, c'est l'une des premières industries polluantes. Et puis il y a aussi le rapport à la propriété. On se rend compte que par exemple la génération Y n'a pas la même relation à la propriété que les autres générations. On n'est plus dans je suis parce que j'ai. Non, la propriété, ici on n'en a rien à faire. Et puis la surconsommation, notamment avec la fast fashion qui provoque beaucoup de consommation. Donc Rent the Runaway et Urban Outfitters ont lancé le service, mais via un modèle d'abonnement, donc ce qu'on évoquait déjà très très souvent à ce micro, la subscription economy. En France, c'est pas du tout le cas. Ici, on va pas du tout être sur de l'abonnement, on va plutôt être sur une location de une ou plusieurs pièces pour une durée de 4 à 8, voire 12 jours, pour un petit panier moyen de 55 à 75 euros, sachant qu'une robe chez Bash, en moyenne, c'est 400 euros. Et puis pour une location d'une silhouette complète, on va plutôt être sur du 120 euros. Donc la vraie proposition de valeur de cette offre, c'est laisser le choix au consommateur et ne plus faire de vente forcée, ne plus acheter pour posséder et puis stocker dans les armoires. Ici, on propose soit l'achat, l'essayage ou la location. Et là, on s'adresse directement à une clientèle plus engagée, pas forcément encline à dépenser beaucoup d'argent dans l'habillement et surtout désireuse de consommer autrement. Tout ça, ça se passe sur une plateforme. Donc, soit vous allez sur Bash, mais principalement sur les cachotières. Et il y a une transaction qui s'effectue.
Donc, tu choisis sur ton site, tu vas pas en magasin.
En fait, c'est comme si tu achetais. Mais au lieu d'acheter, c'est de la location. Donc, tu vas rentrer tes coordonnées, tu vas ouvrir un compte, tu vas mettre un compte client, tu vas mettre tes coordonnées, tu vas choisir tes options, comme si tu choisissais, comme si tu louais des skis, par exemple. Mm-hmm. Là, c'est la même chose. Pourtant, lorsque tu loues des skis, t'as quand même une notion de e-commerce derrière. Là, c'est pareil.
Et en magasin, ils le font aussi ?
Non, en magasin, ils le font pas. C'est uniquement sur le site Les Cachetières.
D'accord. Section levée de fonds, je voulais faire une suite à ce qu'on avait évoqué il y a quelques mois sur ces nouvelles plateformes e-commerce complètement orientées API. Il y a une société qui s'appelle Shogun qui a levé 10 millions de dollars aux États-Unis et qui propose un CMS, un outil de gestion de contenu de front qui va s'intégrer justement avec toutes ces solutions. Donc on est en train de voir que le marché, il est en train d'aller dans cette direction. Il y a de plus en plus d'acteurs qui vont commencer à se spécialiser sur ces approches point solution et moins plateforme, et notamment Shogun. Ils expliquent qu'ils s'intègrent avec Shopify, BigCommerce, Salesforce et Magento. Donc, on reconnaît là des solutions headless commerce de nouvelle génération.
Et on passe à la rubrique Amazon, donc la rubrique dédiée à Amazon. On va encore parler du coronavirus, dans la bonne humeur et la joie. Donc, le géant américain du e-commerce, du commerce en ligne, s'attaque désormais aux produits prétendant lutter contre le coronavirus distribués par les vendeurs tiers. Donc, en fait, sur Amazon, vous avez des vendeurs tiers qui proposent certains articles qui sont censés lutter contre le coronavirus, comme les masques, les gels antibactériens et d'autres choses. Et en fait, souvent, ce sont des produits homologués, des faux, frauduleux et vendus à des prix exorbitants. On constate une hausse des prix pouvant atteindre les 1000%. C'est énorme et Amazon a pris des mesures jeudi dernier, le 27 février, des mesures de renforcement, davantage de contrôle et surtout au moindre doute et à la moindre complainte, le vendeur tiers est sommé d'arrêter de vendre ses produits. Et hier, je faisais un petit test sur Amazon. Je voulais voir si il restait des gels antibactériens. Alors oui, il en reste, mais à des prix genre 42 euros le 100 millilitres, quoi. Je suis allée en pharmacie, il n'y en avait plus. Je suis allée genre au Monop' du coin, il n'y en avait plus. Donc en fait, on se rend bien compte qu'il y a une vraie... un marketing du désespoir et une vraie psychose qui s'est organisée et certains vendeurs peu scrupuleux en profitent, notamment sur Amazon. Et on passe à la rubrique Simple et Funky.
Des news simples dans un format
funky. Groupon cesse ses ventes de détail, donc les ventes de vêtements bijoux, et se concentre uniquement sur la vente d'expérience.
Shopify va rejoindre l'association Libra de crypto-monnaie initiée par Facebook.
Ah bon ? Alors que tout le monde part, eux arrivent. C'est bien. Expedia va supprimer environ 12% de ses effectifs. 12% de ses effectifs.
Suite au Brexit, Google placera les comptes des utilisateurs britanniques sous juridiction américaine et n'accordera donc plus la protection du RGPD.
La start-up française SoClose est rachetée par l'intégrateur de solutions logistiques Savoy. Savoy. Et tout de suite, notre instant réclame.
Si vous aimez ce que vous écoutez, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast.
N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter, pour ne rien rater de l'actualité et des coulisses du podcast. Merci à toutes et à tous pour votre soutien, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et vos messages nous touchent.
Laetitia, pendant la pause, on a reçu Svetlana. Bonjour Svetlana.
Bonjour à vous.
Bonjour Svetlana.
Svetlana, tu es avec nous parce que ça fait quelques semaines qu'on échange. Je vais te laisser te présenter dans une seconde. Et en fait, il y avait une actualité qui nous intéressait, donc on trouvait ça intéressant de pouvoir te recevoir à ce moment-là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Svetlana ?
Oui, alors bonjour à tous. Moi, je m'appelle Svetlana Baranov. J'ai plus de 10 ans d'expérience maintenant dans le secteur bancaire et j'ai récemment écrit un livre qui s'appelle Bankless Banking, qui présente un peu les enjeux d'évolution du secteur bancaire.
Et c'est précisément pour ça que nous avons invité Svetlana, c'est pour parler de la banque et plus particulièrement des néobanques et plus particulièrement de Revolut qui vient de lever 500 millions de dollars.
Laetitia, avant de commencer la news, j'ai un jingle parce qu'on avait parlé d'argent, des fintech, donc il fallait que je te lance sur un jingle. Here comes the money. Here
we go. Money talk. Here comes the money. Money. Il est trop bien ce
jingle. Il est génial. On peut commencer.
Allez, on peut commencer. Bon, bah, Svetlana, voilà, here comes the money. Bah, Revolut, fintech britannique, créé en 2015. Parmi ses concurrents, N26, TransferWise, Monzo, plus de 10 millions de clients. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 100 millions de dollars? 500 millions de dollars. Explique-nous tout. Qu'est-ce qui se passe dans l'univers fintech en ce moment?
Alors du coup, on pourrait peut-être dire que ça va être un tournant, peut-être pour d'autres néobanques également, ou juste pour Revolut. Ce qui est certain, c'est que ça risque certainement d'être la dernière levée de fonds de Revolut. Mmh. Ensuite, il y a 3 issues. Donc la première, ce serait une entrée en bourse. La seconde, ce serait un rachat, mais ce qui serait en quelque sorte un échec en fait pour cette néobanque et pour son fondateur qui est très charismatique. Mmh. Et la troisième issue, bah, ça serait une faillite. Et on parle aujourd'hui dans le milieu du WeWork effect, en fait.
D'accord. Ouais, parce que je vois qu'en plus, ils ont des... enfin, je me suis renseignée, Revolut enchaîne pas mal de pertes quand même.
Donc, oui, tout à fait. En fait, c'est ce qu'on reproche essentiellement en fait, à Revolut et à d'autres néobanques également, c'est de ne pas être profitable. Et donc, du coup, c'est là qu'on a tendance, du coup, à... j'allais dire attaquer un peu Revolut sur ce sujet-là et en disant que bah ils vont pas tarder à disparaître.
Excuse-moi. Pourquoi justement ces néobanques ne sont pas profitables? Tu peux nous expliquer un petit peu les mécanismes de cette non profitabilité?
Alors déjà d'une part une banque c'est beaucoup de coûts à la fois IT alors que les néobanques ont réussi un peu à limiter par rapport à une banque traditionnelle, mais surtout de coûts réglementaires en fait. Pour répondre à la contrainte réglementaire, il faut aussi investir beaucoup d'argent et beaucoup de levées de fonds sont consacrées justement à cette thématique-là. Et en même temps, il n'y a pas beaucoup de revenus en fait. Enfin, elles déjà, elles n'ont pas beaucoup de sources de revenus, sachant que les banques traditionnelles, elles ont souvent le crédit ou les investissements sur le marché en fait qui leur rapportent. Les néobanques sont souvent dépourvues de crédit, donc elles ont que ce qu'on appelle la banque de détail, donc le dépôt et la carte de paiement. Et aussi parce que ces néobanques-là et les fintechs en général ont contribué elles-mêmes à la réduction des marges. Parce que c'est elles qui ont poussé les modèles de cartes gratuites. Revolut, c'est vous pouvez avoir un portefeuille d'actions gratuit. Vous pouvez avoir un taux de change. Enfin, quand vous allez à l'étranger, vous payez pas de taux de change, donc c'est gratuit. Et elles-mêmes, en fait, ont favorisé la réduction des marges dans le secteur bancaire. Donc, elles ont peu de sources de revenus, des marges pas très élevées. Et des coûts qui sont quand même conséquents et qu'on peut difficilement réduire à zéro.
Si demain Revolut fait faillite, qu'est-ce qui se passe avec les clients qui sont chez Revolut? Ils perdent leur argent ou ça sera envoyé quelque part?
Non, ils perdent pas l'argent parce que Revolut répond quand même à des contraintes réglementaires. Donc en fait, ils ont un taux de couverture. Alors ça doit dépendre de pays à pays, mais ils ont un taux de couverture réglementaire comme les autres banques en fait. À part si vous avez 200 000 euros chez Revolut, mais il est quand même vraisemblable que vous récupériez votre argent.
Et par rapport à N26, ce que tu vois que c'est le même modèle et ils vont mais ils sont plus petits. Enfin, j'ai l'impression que N26 est plus développé en France que Revolut. En tout cas, ils communiquent plus et ils sont arrivés avant. Ou est-ce que c'est la même chose, ils perdent aussi de l'argent et ils suivent le même modèle?
Alors, N26 et Revolut, pour moi, c'est des modèles assez similaires et leur stratégie consiste surtout à aller chercher un gros volume de clients parce que c'est aujourd'hui les néobanques qui ont réussi à acquérir le plus de clients. En parallèle, en fait, il y a des néobanques comme Sterling Bank au UK, par exemple, qui se concentrent en fait à plutôt développer une stratégie qui peut être différente en fait de celle des banques traditionnelles et un peu moins sur le côté « je vais chercher un gros volume de clients ». Donc là, il y a une différence stratégique, c'est que c'est vrai que, alors moi en tant que, je vais peut-être dire génération Y, moi je suis cliente de Revolut et j'aime beaucoup leurs services parce qu'il y a du temps réel, parce qu'il y a des petits services de transfert d'argent qui sont extrêmement simples. Revolut par exemple, on peut transférer de l'argent en géolocalisant quelqu'un. Donc on allume juste notre téléphone et ça nous propose
de... Par exemple, là, tu peux me transférer
de
l'argent.
Sans qu'on échange un numéro de téléphone ou quoi que ce soit.
Avec les 500 personnes qui sont au WeWork aujourd'hui.
Voilà, c'est ça.
Donc, d'ailleurs, Revolut est ici. Hein. Le bureau français est ici.
Moi, je veux dire que du bien.
Mais ils ne sont pas là, je crois qu'ils sont confinés.
Non, mais du coup, oui. Voilà, moi, je trouve que leur service est très fluide, qu'il marche bien. Et moi, je suis plutôt satisfaite du service. Mais si on réfléchit, on va dire, à plus grande échelle, c'est vrai que est-ce qu'il y a une réelle différenciation avec une banque traditionnelle pour des gens qui sont peut-être moins exigeants en termes de réactivité, de temps réel ou de choses comme ça. Donc, il y a d'autres néobanques qui réfléchissent à des modèles un peu plus différents, peut-être un peu plus différenciants des banques traditionnelles.
Et les banques traditionnelles, tu penses qu'elles peuvent, elles essaient depuis des années, mais elles peuvent se mettre à niveau, avoir le temps réel partout et des notifs, être très optimisées sur les mobiles, ou c'est compliqué? Parce que toi, tu bosses avec ces banques-là.
Oui, oui, tout à fait. J'allais dire, ça dépend un peu de la stratégie, la complexité pour avoir du temps réel et un service peut être fiable et performant. C'est en fait ce qu'on appelle le back office, donc c'est tout l'IT en fait des banques. Et pourquoi les néobanques ont souvent un service qui paraît être plus fluide, c'est parce qu'en fait ils sont repartis sur des IT, des systèmes d'information qui sont plutôt nouveaux, avec des technologies nouvelles. Les banques traditionnelles, bien sûr qu'elles le peuvent parce qu'elles ont les moyens, les clients, la connaissance du métier. La complexité, c'est vraiment comment on fait pour faire un système d'information qui soit qui permette en fait de faire ça. Voilà.
Svetlana, en introduction, tu parlais de WeWork Effect, notamment à l'annonce du montant de la levée de fonds de Revolut. Est-ce que tu crois que c'est une réelle menace qui pèse sur les fintechs? Parce que ici, au micro du Café de l'e-commerce, il ne se passe pas une semaine sans qu'on évoque des levées de fonds pharaoniques.
Effectivement, je pense qu'il y a une dynamique générale à ne pas vouloir louper le coche, entre guillemets, parce que il y a toujours des regrets sur à tel moment, on a loupé telle vague. Il faut savoir que les acteurs qui sont un peu disruptifs, selon les études, que ça soit dans le tourisme, dans... qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la musique, dans les livres, etc., ils arrivent au bout de 10 ans à acquérir à peu près 30% du marché. Aujourd'hui, dans les fintechs, on est plus proche de 1 à 2% dans les estimations optimistes à 5%. Ça veut dire qu'en fait, on est quand même au début du cycle de disruption en fait sur les services financiers. Donc, il y a une dynamique qui se crée de dire, mais nous, on veut pas louper le coche, on veut être là sur la prochaine banque, la prochaine fintech, etc. Oui, effectivement, je pense que si ça se passe mal pour Revolut, ça va avoir un impact sur l'ensemble des fintechs. Et aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs catégories de fintechs. Il y en a déjà beaucoup qui ont migré plutôt sur du B2B, donc qui offrent des services plutôt tech, où en fait, c'est beaucoup plus simple d'aller chercher de la rentabilité parce que...
Comme
on propose
Conto, par exemple
Plutôt, alors Conto, oui, c'est un autre moyen d'aller chercher, on va dire, plus de rentabilité, c'est de se positionner sur le business. Non, je pensais plutôt à des fintechs comme Budget Insight qui a été racheté par Arkea, qui en fait sont une plateforme d'API en quelque sorte, en fait, pour donner accès à des services technologiques. Donc du coup, sur ce créneau-là, il y a énormément de nouveaux acteurs et effectivement, c'est plus simple d'aller chercher de la rentabilité puisque à partir du moment où on offre un service, on est rémunéré, c'est un peu plus fluide que quand on va chercher du client qui ne paye pas sa carte bancaire. Quoi.
Comment tu vois évoluer alors ces néobanques? Comment elles vont continuer la croissance? Elles vont toutes chercher à être publiques?
Alors du coup, Revolut a quand même annoncé que c'était leur objectif de devenir rentable, donc ils se préoccupent un peu du... Voilà. Moi, je pense que c'est un moment pour les startups où au final, c'est peut-être la bonne occasion d'aller chercher pour le coup des profils plus traditionnels. Autant pour créer, innover, c'est important d'avoir des profils comme les créateurs des néobanques hein, qui ont une vision, qui savent la dérouler. Si on parle par exemple de Facebook, au final c'est Sheryl Sandberg qui a contribué à la création du modèle de rentabilité de Facebook et qui est diplômée d'Harvard et qui a bossé plusieurs années chez McKinsey. Ouais. Donc au final, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où il faut introduire du coup un peu plus de profils traditionnels qui pourraient permettre d'aider à trouver la rentabilité. Donc en tout cas, je pense qu'ils s'efforcent de le faire. Moi, j'ai un point de vue un peu plus, on va dire, peut-être optimiste. Ou je pense qu'il y a quand même des facteurs sur les startups qu'on ne maîtrise pas trop parce que c'est des modèles nouveaux. Je ne sais pas s'il y a des recettes forcément pour dire ça va marcher, ça ne va pas marcher. Peut-être qu'on sous-estime aussi la capacité des fondateurs à aller chercher, on va dire, des modèles surprenants ou des revirements de situation. Donc, je pense que quand on a levé 500 millions et qu'on est à la tête d'une entreprise valorisée 5 milliards, il y a peut-être aussi une capacité à aller chercher des pistes nouvelles.
Alors, on parle de Revolut, mais Svetlana, est-ce que tu penses qu'il y a une autre fintech qui pourrait lever autant, voire plus de fonds dans les mois à venir?
Oui, bien sûr. Je pense que aujourd'hui, après sur du B2C, donc c'est-à-dire que toutes les fintechs qui offrent des services aux clients, on commence quand même à avoir des acteurs qui prennent position en fait, qui émergent un peu. Donc, je pense qu'avec les fondateurs qu'ils ont à leur tête,
ils sont en capacité.
Non, pas forcément, mais je pense que N26 peuvent surfer, par exemple, sur la vague de Revolut et aller chercher aussi, enfin, quoi qu'ils n'ont pas une petite valorisation, je crois qu'ils sont valorisés aussi 3,5 milliards, donc ils ne sont pas trop loin. Mais quand on voit, par exemple, Lydia et Conto en France, c'est des acteurs qui ont pris une position de leader sur le marché français, sur certains segments, et du coup, qui intéressent effectivement les investisseurs.
Bon, ce sera l'occasion d'en reparler dans ce micro, alors.
Merci Svetlana.
Merci beaucoup Svetlana.
Dernier segment de cet épisode, la rubrique Le Café du Mytho. Carton jaune ou carton rouge en fonction de la gravité à des acteurs de l'e-commerce ou du retail. Laetitia, tu voulais commencer?
Oui, alors moi, c'est plutôt sur un aspect social. Je vous parlais d'Instagram et d'une Instagrammeuse qui a arnaqué ses abonnés à hauteur de 1,5 million d'euros.
C'est un carton rouge direct, ça, non?
Ah ouais, non, ça, c'est elle dégage direct. D'ailleurs, elle s'est fait sortir d'Instagram. Donc, l'histoire, qu'est-ce que c'est? Donc, cette Instagrammeuse, Kayla Massa, pour ne pas la nommer, qui avait quand même plus de 320 000 abonnés. Donc, c'est une Instagrammeuse américaine. Elle avait mis en place tout un système de blanchiment d'argent avec la complicité de ses abonnés, bon, à leur insu, de leur plein gré. En gros, l'Instagrammeuse a profité pendant un an de la crédulité de ses abonnés qui lui ont confié, comme ça, de manière totalement, sans aucun doute, sans aucune crainte, ils lui ont confié toutes leurs coordonnées bancaires. Et elle, en échange, elle leur faisait miroiter des gains, quelques milliers de dollars par-ci, par-là. Donc, ils ont donné la carte bleue, le code, le RIB, donc toutes les informations bancaires. Et puis, qu'est-ce qu'elle faisait avec ça, l'Instagrammeuse? Elle blanchissait de l'argent via des chèques ou des mandats cash qui venaient très, très souvent de l'étranger. L'instagrammeuse pouvait ainsi aller retirer de l'argent en banque tranquillement, puisque de toute façon, les banques ne se retournaient pas contre elle, mais contre les propriétaires des comptes bancaires. Donc, un petit exemple, elle est allée chez un concessionnaire de voitures et elle a débité de manière totalement frauduleuse plus de 130 000 dollars avec des chèques qui ont été préalablement dérobés à ses abonnés. Et en fait, elle était toute organisée, elle n'était pas seule, elle avait plein de sbires autour d'elle. Et donc, le ministère américain de la Justice estime la fraude à plus de 1,5 million de dollars. Voilà, elle devrait passer en jugement là bientôt.
J'ai une réaction.
Oui.
Bon, carton rouge alors.
Ah bah oui, carton rouge, elle sort et puis...
Elle revient pas pour deux matchs ou plus. Moi j'ai un carton jaune, c'est un article qui est apparu sur 01net. La source est VPN Mentor et l'article, c'est le titre « Décathlon a laissé traîner 123 millions de données personnelles sur la toile ». On lit ça, on se dit « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ?» On regarde un petit peu plus et ils expliquent que des données personnelles d'employés et de clients étaient en accès libre sur le web. On pouvait y trouver des mots de passe non chiffrés d'administrateurs système. En creusant un petit peu, on se rend compte que Decathlon a eu un droit de réponse et que l'incident il a bien été détecté et qu'il a été résolu. En fait, l'incident il concernait surtout des données techniques internes. Il n'y avait aucun mot de passe, aucun numéro de carte bleue de client. C'était sur certaines informations de clients espagnols. Sur les 123 millions de données mentionnées, seuls 0,03% sont des données d'utilisateurs espagnols. Et sur ces données-là, on parle juste de nom, prénom et d'email. À ton avis, c'est combien 0,03% sur 123 millions ?
Je sais pas, là, je n'arrive pas à calculer.
Bah, c'est 3000 et quelques. J'ai plus le chiffre, j'avais fait le calcul tout à l'heure pour être prêt. C'était 3000. Bon, c'est rien du tout,
c'est
quoi.
Du tout.
Et
voilà,
sur ces 3000, on prend juste le nom, prénom, email. Donc oui, c'est pas bien. Mais ce qui est pas bien, c'est surtout l'article qui a repris. Bon, je suis allé voir un peu VPN Mentor. Tu sais, c'est un
j'arrive
peu comme.
Le nom VPN.
Ouais, et c'est quoi déjà le masque, là, des. Tu sais, là, les personnes là qui font le truc, oh, là, les hackers. Et qui ont leur...
Ah oui, comment ils s'appelaient ces gars-là ?
Anonymous, non, c'est
Anonymous,
ça ?
Anonymous,
voilà, ouais. Il y a le gros masque Anonymous, donc tu te dis, ok, c'est hacker, donc ça doit être Jimmy du 75 ou du 73 ou je sais pas quoi.
De Melun ?
Ouais, voilà, c'est ça qui a dû faire ça. Donc bon, l'article, voilà, c'est pas vraiment, on sait pas trop qui est derrière, qui est l'auteur. Zéro.net qui le reprend aussi facilement, aussi on pourrait être moyen. Et puis ils mettent quand même le droit de réponse, mais dans ce cas-là, supprime l'article ou change le titre. Je trouvais que c'était un carton jaune, non pas pour Decathlon, qui a sûrement d'autres raisons d'avoir des cartons, mais plutôt pour Zéro.net qui fait là sur le coup du sensationnalisme.
Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous ce moment. Merci beaucoup Svetlana.
Merci Svetlana.
Merci. Svetlana, comment est-ce qu'on peut te contacter ?
Du coup, vous pouvez facilement me trouver sur LinkedIn ou par mail à svetlana@21banking.com.
On mettra tout ça dans les commentaires de l'émission. Merci à tous pour votre écoute. Partagez cet épisode autour de vous. On se voit la semaine prochaine, Laetitia.
Allez, Adrien, rendez-vous la semaine prochaine.
Avec ou sans virus, on se voit la semaine prochaine.
Quoi qu'il arrive, on sera là.